In progress.
C'est bon.
C'est bon. On est bon. Eh bien alors, Erev Tov, à toi mon ami, Erev Tov et Koulam. Et on est lancé pour notre étude. Ça fait longtemps qu'on ne s'était point vu à cette heure-là. Là, pendant l'été, on va se voir des heures plus matinales, semble-t-il. Mais on est Erev Tisha B'Av. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle un petit peu de Tisha B'Av. D'ailleurs, alors je vais le marquer également en message, mais si vous voulez, je vous enverrai le lien. Vous pourrez vous connecter. Betisha B'Av Atzmo. Je vais faire un cours dans ma synagogue en hébreu à 6h30. 6h30 chez moi, donc ça fait midi et demi, je pense, chez vous. Midi et demi ou 11h30, je sais pas exactement. Voilà, ceux qui voudront suivre, vous pourrez suivre également, ça sera pas le même cours que ce soir. Donc, aujourd'hui, je voulais me concentrer sur le lien qui existe entre le livre de Devarim et Tisha B'Av. C'est-à-dire, le cours de Tisha B'Av, on parlera du tikkun de Tisha B'Av Bador Hazeh, du tikkun aujourd'hui. Mais là, je vais voir le lien entre Sefer Devarim et Tisha B'Av. Alors, Rabotai, première question. Première question, et c'est une vraie question qui se pose. Behemet, Moshe Rabbeinu, il ne savait pas parler. Behemet, Moshe Rabbeinu, il était mégamgem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît quand même très, très, très bizarre d'entendre cela. Moshe Rabbeinu, on connaît tous le Midrash qui nous explique lorsqu'il était petit, eh bien, il jouait avec la couronne de Pharaon. Et Pharaon, il a eu très, très peur. Est-ce qu'il veut prendre ma place? Il a demandé à ses trois conseillers qui étaient Bilam, Yitro, Yov, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et ils lui ont dit, écoute, on va lui faire passer un test. Tu mets deux assiettes, une avec de l'or, des bijoux et des pierres précieuses, et l'autre avec des charbons ardents rouges comme ça. Et on va voir ce qu'il prend. S'il prend la couronne, enfin les bijoux, ça veut dire qu'il est attiré par la richesse, par son pouvoir. S'il prend les charbons incandescents, c'est Stam un bébé qui ne sait pas quoi, enfin qui Stam bijoux. Et donc il y a les deux assiettes, à ce moment-là, il prend la main et il va prendre les charbons ardents, il se brûle la main et donc, de suite, il met la main dans la bouche et ça lui brûle la langue. Et Moshe, il est né gam-gam. Bon, on connaît tous cette histoire-là. Pourquoi est-ce que ça ne me va pas de parler de Moshe en tant que mégam-gam? Eh bien, ça ne me va pas parce que, un, le même Midrash nous dit que lors du buisson, la rencontre avec Dieu au buisson ardent, eh bien, Kadosh Baruch Hu rit pas autour. Il l'a guéri. Donc, ça y est, il bégaye plus. Et d'ailleurs, tu ne peux pas imaginer que Moshe Rabbeinu, qui sert au Mishkan, donc comme au Beth Amidash, il est Baal Moum. Je vous rappelle que d'après la Torah, quelqu'un qui est Baal Moum, qui lui manque un membre ou qui a un défaut qui reste constamment, eh bien, il ne peut pas servir au Beth Amidash, ni au Mishkan d'ailleurs. Donc si Moshe, il devient Baal Moum, Rabotai, impossible de dire que c'est lui qui bosse au Mishkan. Au Beth Amidash. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? Comment est-ce possible? Eh bien, Moshe, il n'est pas quelqu'un qui bégaye. Le problème physique qu'il avait, il a été réparé au buisson. Et pourtant, d'ailleurs, c'est la première fois, la première chose qu'il dit à Dieu, il dit, qu'il va te bégayer, qu'il va te lâcher un orti. Et là, Dieu lui dit, c'est moi qui donne la parole à celui qui est sourd et à celui qui est muet. Mais qui te sourd? Je te guéris. Mais à ce moment-là, Moshe, il ne veut toujours pas y aller. Et il dit, « Lo ish devarim anochi. » Moi, je ne parle pas. Et la question est donc de savoir, mais pourquoi Moshe, il ne parle pas? Si ce n'est pas un problème physique. Alors, vous allez me dire peut-être que Moshe, c'est quelqu'un qui n'a pas de charisme. Peut-être que Moshe, c'est quelqu'un qui est très timide. Sauf que non. On voit qui est Moshe dans toute l'histoire, que ce soit dans la sortie d'Égypte, au désert. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un charisme énorme. Et donc, il est pas, il n'a pas de problème d'être devant les gens. Mais Moshe, il a un problème. Moshe, depuis sa tendre enfance, il ne sait pas véritablement vers qui va son allégeance. Il a une double identité qui deviendra triple. Il est égyptien, il est hébreu. Et après, il va devenir midianite. Moshe a peur de ne pas être légitime pour parler au peuple d'Israël, j'entends. Dans un premier temps, il refuse d'y aller, il demande à Kadosh Baruch Hu, envoie Aaron à ma place. Parce que là, la question que se pose Moshe, c'est est-ce que je suis plus légitime en tant qu'Égyptien ou en tant qu'Hébreu ? Et donc il dit, envoie, si c'est pour parler aux Hébreux, envoie Aaron. Il est beaucoup plus Hébreu que moi. Kadosh Baruch Hu va lui expliquer que Dafka va sortir d'Égypte. Il a besoin d'un mix entre l'Égyptien et l'Hébreu. Seulement après, n'oublions pas que Moshe est parti pendant 40 ans à Midian avant de revenir sortir l'Ebné Israël d'Égypte. Et donc, une fois qu'il est sorti d'Égypte, est-ce que les Bnei Israël le voient comme un Hébreu, comme un des leurs? Alors, côté Égypte de Moshe, on peut dire qu'après la Kriat Yam Souf, après l'ouverture de la mer Rouge et le fait que les Égyptiens soient engloutis, et que Moshe qui a fait tout ça, on peut dire qu'il s'est débarrassé de son côté égyptien. Mais est-ce que son côté égyptien ne serait pas remis sur le tapis toutes les 5 minutes? Particulièrement dans la paracha de Pinchas, où la Zimri vient dire à Moshe, si cette femme midianite m'est interdite, qui t'a permis la tienne? En d'autres termes, tu es lié avec Midian. Et c'est pour cela qu'il fallait que Moshe règle ses comptes avec Midian. Dans la paracha de Matot et Masé de la semaine dernière, eh bien on nous dit, Kadosh Baruch Hu vient voir Moshe et lui dit, Nekom nikmat Hashem et Amidianim. Achar te'asef el amecha. Venge le peuple juif des Midianites. Et après, tu pourras rejoindre ton peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le'asef el amav? Ça veut dire mourir. Mais ça veut dire aussi rejoindre ton peuple, mamash. La semaine dernière, Moshe a donc terminé sa problématique avec Midian. Ça y est, il n'est plus égyptien aux yeux de personne. Il n'est plus midianite non plus aux yeux de personne. Il peut enfin devenir l'hébreu qu'il a toujours été. Et à ce moment-là, eh bien, peut commencer Elle est à Devarim, Asher Diber Moshe. Ça y est, enfin Moshe peut prendre la parole. Jusqu'à maintenant, il transmettait Dvar Hashem. Jusqu'à ce matin, il transmettait la parole à la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Mais ce n'était pas lui-même qui parlait. Mais attendez. Je suis en train de dire, de prétendre que c'est Moshe qui parle. Elle est à Devarim, ma chère Diber Moshe, elle colle Israël. Mais attendez. Moi, je me rappelle du Talmud, je me rappelle du Rambam, du Shulchan Aruch. Tout celui qui dit que ne serait-ce qu'un verset de la Torah, et le produit de Moshe et pas de Dieu, kofer bekol haTorah kula. C'est un mécréant, un apostat, un kofer. Alors, on y le mévine. Ce livre de Dvarim, c'est la parole de Moshe ou c'est la parole de Dieu? Sheela Tova. Dans tous les autres livres, il n'y a pas de Sheela. Il y a marqué Vaïdaber Hashem et Moshe est mort. Donc, c'est sûr que c'est la parole de Dieu à Moshe. Et de là, Moshe, il transmet. Aval, qu'en est-il de Sefer Dvarim? Où il y a marqué, voici les paroles de Moshe. Je voudrais rajouter au problème le fait que, bah, finalement, quand on regarde dans le Talmud un petit peu plus près, on nous dit que Brachot ou Klalot, Shel Torat Kohanim, Moshe Mipi Agevura Amaran, אבל ברכות וקללות שבפרשת כי תבוא משה מפי עצמו אמרן que les brachot et klalot du livre de Vayikra de parashat Vayikra de parashat Bechukotai c'est Moshe qui l'a dit sous la dictée de Dieu mais les brachot et klalot de la parashat de Kitto c'est Moshe tout seul ça ne fait qu'en français ce qu'on a dit pourtant on m'a dit que si je dis que ne serait-ce qu'un seul verset je parle pas de toute la parashat. Un seul verset vient de Moshe et pas de Dieu, t'es couvert. Azma Koré. Je voudrais donner comme contre-argument à ce que je viens de dire un verset du livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, il y a un verset terrible. J'ai voulu l'enlever de mon Sefer Torah à la synagogue, mais après ils m'ont dit que si je l'enlevais, le Sefer Torah était plus cachère. Il y a quand même marqué dans la Torah, « Mi Hashem asher eshma bekolo, lo yadati et Hashem, ve gam et bene Israël, lo ashaleach. » Mais qui est Dieu pour que je écoute sa voix? Je ne le connais pas, moi, Dieu. Donc, je ne laisserai pas partir les bénis Israël. Qui a dit à qui et en rapport avec quoi? Mais évidemment, c'est Pharaon qui dit à Moshe quand il s'agit de laisser partir les bénis Israël. Maintenant, Nishoël. Lorsque Pharaon a dit ça à Moshe, Mipiatzmo Amra ou Mipiagevura? Lorsque Pharaon il a dit cette phrase à Moshe, c'est Dieu qui lui a mis les paroles dans la bouche ou c'est lui tout seul comme un grand qui a parlé? Quoi, Pharaon maintenant il est prophète? Nounou, remettez-vous un petit peu dans le contexte. Il y a Moshe qui vient voir Pharaon et donc se dégage une discussion. Cette discussion elle est dans le palais de Pharaon. Il y avait d'autres gens. Il y avait plein de notables égyptiens. Ils ont entendu Pharaon dire « Mais qui est Dieu? Je ne le connais pas, moi, Dieu. Donc, je ne laisserai pas partir les fils d'Israël. » Au moment de la discussion entre Pharaon et Moshe, cette phrase de Pharaon, elle n'est pas dans la Torah. Peut-être qu'elle est dans le journal secret et intime de Moshe. Je ne sais pas. Peut-être qu'il tenait un journal. Peut-être qu'il a écrit « Pharaon m'a dit ça. » Mais ce n'est pas Torah. Et la main. Beaucoup plus tard, lorsque Dieu va commencer à dicter la Torah à Moshe, eh bien, il va lui dire, tu te rappelles ce que Pharaon lui t'a répondu quand je t'ai demandé de lui dire de partir mon peuple? Tu te rappelles, il a dit, mi Hashem, 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 Hashem. Très, très bonne phrase. Marque-la dans la Torah. À partir de ce moment-là, ça devient Torah. De la même façon, lorsque Avimelech parle à Abraham, lorsque Pharaon parle à Sarah, dans le livre de Béchit. Ce pas des prophètes. Mais leur parole est devenue prophétie lorsque Dieu a dit à Moshe. Écoute-moi ça. En d'autres termes, le livre de Dvarim, lorsque Moshe a fait son monologue, il s'agit d'un monologue énorme, depuis le début de Dvarim jusqu'à la fin de Dvarim. C'est les paroles de Moshe. Lorsque Moshe l'a dit, ce monologue, parce que « Elé advari ma chère d'Iber, Moshe », c'était pas dans la Torah. « Zayami piatzmo » Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il dicte la Torah, lui dit « Eh bien, écoute, j'ai écouté ton discours là de Dvarim, chapeau, c'était super. Eh bien, chaque mot de discours, je veux qu'il réécrit dans la Torah. » Et c'est ça qui va donner au livre de Dvarim son stempel, son tampon de cachérisation Torah. C'était les paroles de Moshe, uniquement de Moshe. Mais Dieu les a divinisées. Dieu leur a donné un statut de Torah. Mais attention, ça confère au livre de Dvarim eh bien, un statut très particulier. D'abord, au niveau du style. Au niveau du style linguistique, c'est pas du tout le même que Bamidbar, Vayikra, Shemot. Et Bereshit, je t'en parle même pas. Pourquoi? Parce que tu vois bien que c'est pas, entre guillemets, le même auteur. Bien sûr, c'est à Kadosh Baruch Hu, on a dit. Mais le style de Dvarim, c'est le style de Moshe. D'ailleurs, on ne retrouve pas dans le Merkab, dans les recherches scientifiques, que le style linguistique du livre de Yoshua est très, très, très proche de celui de Dvarim. C'est tout à fait normal, parce que Yoshua était écrit par Yoshua, qui était l'élève de Moshe. Donc, c'est normal qu'ils avaient le même style. Rabotai. Ça confère au livre de Dvarim un statut très particulier. Puisque c'est un livre dans lequel il y a une participation active de l'homme. Alors que Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, c'est Ribono Shel Olam. Dvarim, le livre qui nous prépare à notre entrée en Israël, qui nous prépare à prendre Eh bien, la responsabilité de notre histoire, eh bien, c'est Ribono shel Olam ve Moshe. Une participation de l'homme. Bon, mais cette participation avait voilé la volonté de Dieu. C'est pour ça que Moshe, même s'il participe, en fait, il ne fait que revenir sur ce qui a déjà été dit. Et c'est pour ça que le livre de Dvarim s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le livre de Dvarim, Eino Ela Choser, Lema Shekatuv Lemal. Tout ce qu'on va trouver dans le livre de Dvarim, on peut le retrouver ailleurs dans un des quatre livres. C'est-à-dire toutes les mitzvot qui sont mis en avant dans Dvarim, on les a déjà étudiées d'une autre façon, pas forcément les mêmes mots, mais ailleurs dans les quatre livres de la Torah. Tom, il a fait merde. Sauf que, quand je regarde de plus près, je me rends compte qu'il y a une mitzvah en particulier. Ben non. Et je la retrouve nulle part ailleurs. Je ne la retrouve que dans le livre de Dvarim. Et c'est la mitzvah de Girushin. La mitzvah de divorcer. Alors quoi ? C'est une mitzvah de divorcer ? Non, je te rassure. Oui, c'est une mitzvah dans le sens mitzvah ordre d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que tu es obligé de divorcer. Ça veut dire que si jamais tu divorces, sache que ça fait partie du dévoilement de la volonté de Dieu. Une mitzvah de divorcer si jamais tu as besoin. Comme une mitzvah de se marier. Souvent, se marier, tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Il faut savoir que si jamais on en vient à briser un mariage, c'est aussi dans le domaine divin. Il y a des mitzvot qu'on espère ne jamais réaliser. Comme celle-là. Il y a une mitzvah, par exemple, où il y en a deux qui vont ensemble, mais tu ne peux pas faire deux. Tu dois choisir une ou l'autre. Tu seras toujours en train de choisir et il y en a une que tu ne feras pas. C'est la mitzvah de Yiboum au Khalitza. Imagine, quelqu'un est marié, une femme est mariée, son mari décède et ils n'ont pas d'enfant. Alors, soit elle se marie avec le frère du défunt, ça s'appelle Yiboum, soit elle refuse de se marier avec le frère du défunt, ça s'appelle Khalitza. Elle ne peut pas faire les deux. Donc, c'est une mitzvah, il va falloir que tu choisisses, quoi que tu arrives. Alors, Botaï, la mitzvah de Birushin. וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, כבר נתרווה דן הרעשה דפי תצא דן ליב דו דברים. הפריורי, בנפחים ילפח עליון על התור. אור, ספר דברים, זה משנה תורה. איך? כמו זה פוסיב? יא, תוספות דן לתלמוד, בואו רפון רצת קיסטיון. Ils vont dire que la mitzvah de Girushin, oui, on la trouve dans la Torah. Vous savez où ? Dans la Torah, je parle avant le livre de Dvarim. Bashurot Arekot. Non ? C'est quoi les Shurot Arekot ? Eh bien, c'est très simple, les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Sefer Torah. Une fois qu'il est déroulé, eh bien, c'est un seul parchemin qui écrit cinq livres. Quand on y regarde de plus près, eh bien, entre le livre de Bereshit et Shemot, il y a quatre lignes vides. Ce sont les Shurot Rekot. Il y a quatre lignes libres entre Bereshit et Shemot, quatre lignes libres entre Shemot et Vayikra, quatre lignes libres entre Vayikra et Bamidbar. Bon, il y en a aussi quatre entre Bamidbar et Dvarim, mais Dvarim est censé de toute façon être une répétition. Donc les lignes entre Bamidbar et Dvarim sont aussi une répétition. Mais attendez, 4 et 4 et 4, ça fait 12. Nakhon, c'est pour ça que nous dira Tosfot, Sheba Halakha, un guet, un acte de divorce, doit comporter au minimum 12 lignes. On apprend les 12 lignes du guet des Shurot Arekot. Tu es en train de me dire que les lignes qui séparent les Sfarim, c'est ça la mitzvah de Kirushin ? Comment ? Les amis, c'est très simple. C'est quoi le divorce? Le divorce, c'est ce qui sépare deux identités. Et ce qui sépare dans la Torah, eh bien, ce sont ces fameuses lignes libres qui séparent entre Bereshit et Shemot, Shemot Vayikra, Vayikra Bamidbar. Et ainsi, on peut dire, ben voilà, Yesh Shurot Ekot, Yesh Kritut, il y a une séparation. Waouh! Vous commencez à comprendre pourquoi nos sages, il y a déjà à peu près plus de 1000 ans, ont décrété que quoi qu'il arrive, la paracha de Devarim, l'ouverture du livre de Devarim, sera toujours lue avant Tisha B'Av. Quoi qu'il arrive. Devarim précède Tisha B'Av. Lama ? Eh bien parce que Yecholiot, qu'il y a une brisure. Yecholiot, qu'il y a séparation. Mais de la même façon qu'après Bamidbar, il y a la brisure, mais il y a le livre de Devarim derrière, qui fait que cette brisure n'est pas totale. Eh bien, il n'y a pas de plus grande brisure que Tisha B'Av. Eh bien, sache que Tisha B'Av, la brisure n'est pas définitive. S'il y a une mitzvah de divorcer, il y a une autre mitzvah qui s'appelle Marzir Grouchato, de reprendre son ex-femme, de se remarier, de réinitialiser le contact. Alors évidemment, il y a des halakhot là-dessus. Je ne peux pas, si jamais j'étais marié, l'homme échappé. L'idée est toujours là. Que la brisure n'est pas une fin en soi. Que le retour est une fin en soi. Alors, vous allez me dire, c'est beau ça, mais uniquement si je mérite. Si je ne mérite pas, non. Et c'est pour ça qu'on ouvre avec la paracha de Devarim. Quand tu lis la paracha de Devarim, et là, Devarim, cher Dibé à Moshe, de quoi il parle? Ce n'est qu'une grande tochecha, la paracha de Devarim. Ce sont des remontrances. Moshe nous tombe dessus. Waouh, waouh, waouh. Moshe nous tombe dessus pour nous dire quoi? Là, pour dire là où on n'a pas été bécédère. Là où on n'a pas été bécédère. Laisse tomber. Vers, pas plus partir de Sinaï vers Israël. Et la faute des explorateurs. Et la faute du Vaudor. Ça va. Pourquoi il faut commencer le livre de Devarim par des Torichot? Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Bien simplement parce que tu aurais pu penser... Alors après, Moshe va donner des trucs sympas. Dans Parashat Vayetranan, il va nous rappeler le don de la Torah. C'est bien, ça. Tu ne pouvais pas commencer avec ça? Non. Tu commences par dire ce qui ne va pas. On a été l'homme et c'est-à-dire. Pourquoi? C'est pour dire que la réinitialisation du lien ne dépend pas de si j'ai été bécédère ou pas bécédère. Ne dépend pas de si je suis un sadique ou pas. Il peut y avoir des brisures dans notre lien avec Dieu. Mais comme on l'a dit, elle n'est jamais éternelle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que justement d'éternité, il n'y aurait que le lien qui l'unit à nous. Et c'est en cela une réponse énorme au christianisme. Qui lui a dit, oui, oui, certes, vous étiez le peuple élu, mais vous avez fauté et vous n'êtes plus. Tisha B'Av montre qu'au contraire, certes, il y a eu des problèmes, et certes, Dieu des fois nous fait bien comprendre qu'on s'est mal comporté, mais à aucun moment, il n'a véritablement brisé le lien. Même la brisure, il obéit. Lama, parce que non, vous avez tort de dire Verus Israël, que nous sommes maintenant le vrai Israël. Car il est marqué dans notre Torah, Banim Atem Lachem Elohim. Banim Atem Lachem Elohim. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu nous dise cela? Alors que très souvent, on présente la relation entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël comme étant une relation de Khatan Vekala, de mari et femme. Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, on nous présente cette relation comme étant parent-enfant? Il y a deux relations qui nous unissent à Akadosh Baruch Hu. D'un côté, la relation mari et femme, qui donne la vie, et qui est une relation qui est basée sur un choix moral. Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Asher Bachar Banu Mikol HaAmim. Mais à partir du moment où il nous a choisi, ça devient une metziut, ça devient une réalité. En fait, nous on a un peu de mal parce que chez nous, choisir quelque chose, ce n'est pas le créer. Je peux faire un choix de manger des tomates et pas des concombres, mais les concombres, ils existent quand même. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, nous explique le Rav Kook, lorsque Akadosh Baruch Hu, Borer ou Boré. Mais à Borer, Béamo Israël, Béara ou Boré. Il nous crée de cette façon-là. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, Gam, Khatan, Imakala, c'est nous. Gam, Abba. Parce qu'une fois qu'il nous a créés, il nous crée. Et donc, c'est très important de nous présenter comme étant la femme de Dieu, mais tout autant important pour montrer que le lien, il est sur un choix, mais tout autant important de montrer qu'il est également Abba Veben. Parce que Abba Veben, c'est éternel. Parce que Bani Matem Lachem Lohechem, c'est une réalité qui ne changera jamais. Le fils peut partir en cacahuète autant qu'il veut. Il reste le fils. Et le père peut se comporter comme il veut. Il reste le père. Et une malassot, Rabotai. Et donc, quand on te dit Bani Matem Lachem Elohechem, eh bien, ça veut tout simplement dire que quoi qu'il arrive, et malgré les brisures et les chutes, notre lien avec Akadosh Baruch Hu n'est jamais vraiment arrêté. Le problème, c'est que c'est vrai ce que je dis, que le lien entre les parents et les enfants sont toujours là. Le problème, c'est que des fois, l'enfant, il est parti tellement loin. Il s'est tellement éloigné de ses parents. Les parents ne le reconnaissent plus comme ses enfants. Ou alors, lui, l'enfant, n'arrive plus à reconnaître ses parents comme ses parents. 2000 ans d'exil. Oy va voy. Je te raconte pas comment on a changé. J'adorerais pouvoir faire un saut temporel et de prendre un juif de l'époque actuelle ou de Borpah et de le mettre à côté d'un juif de Jérusalem du Baal Sheni. Je peux t'assurer que et les uns et les autres diraient, mais ce n'est pas des juifs ça. Prends un juif du deuxième temple, et je ne te parle même pas du premier temple. Tu le mets face à un mec qui est au collège toute la journée. Je dis, mais ça, c'est c'est pas le judaïsme. Depuis qu'on ne travaille pas, ça ne veut rien dire, ça, tout le monde travaille. Tous les Tanaïm, les Rarins, les Chachamim, les Zougot, de l'époque du Beit Hamikdash, ils avaient tous un métier. Et là, tu les vois tous au collège. C'est riche, ça. Et puis, d'un côté, le mec de Bnei Brak qui va te dire, c'est quoi ce mec-là qui est habillé en jupe Quel yorob? Zelotim bash, zasour, mazé, c'est pas kippa. C'est pas un juif. C'est un réformé celui-là. C'est-à-dire qu'on est très 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 loin de ressembler à nos ancêtres d'il y a 2000 ans. Cependant, d'un autre côté, en vrai, on est très 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 près de nos ancêtres d'il y a 2000 ans. Il faut juste gratter un petit peu. Le problème, c'est que des fois, on ne gratte pas. Et que donc, tu pourrais penser que notre, bah, nous, c'est rien à voir. Et donc, notre lien à Dieu non plus, rien à voir. Abel, l'homme a qui est Abba, va Abba, l'homme a qui est Abel. Le père ne reconnaît plus son fils comme le fils ne reconnaît plus son père. Tishta Be'av, c'est de se rappeler que papa, c'est papa. Mais il y a quelque chose qui n'est pas moins important. Parce que se rappeler que papa, c'est moi. Seulement Tishta Be'av, c'est aussi le moment où papa, il se rappelle que je suis son fils. Tisha B'Av, c'est le moment où Israël il se rappelle que son lien avec Dieu, il est total, y compris dans la douleur. Mais c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, qui vient folle, entre guillemets, se rappelle aussi qu'on est ses enfants. On va lire dans la Megillah de Eicha, Motzei Shabbat. Vekara alai moed lishbor bavurai. Que Tisha B'Av s'appelle Moed. Moed, c'est un temps de rencontre, c'est pénible, c'est bien, c'est positif. Effectivement, bien sûr, un jour viendra où Tisha B'Av sera redevenu un Moed, une fête extraordinaire. Mais qui a pour rôle de faire le switch? Qui va nous annoncer que ça y est, c'est un nom, je ne but, au contraire, on fait un festin de ouf. Eh bien, ce rôle-là, c'est le rôle du conseiller familial du peuple juif. Il est anochi, et c'est ainsi que termine la prophétie. Le dernier prophète, Malachi, dans le dernier chapitre de la prophétie, chapitre 3, au dernier verset, il dit « Inne anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi, et Eliyahu hanavi. Lifne bo yom Hashem agadol vanora. Je vous enverrai Eliyahu hanavi avant la fin des temps. » Et alors, il ne fera pas Eliyahu. Eh bien, le rôle d'Eliyahu, c'est l'olé attire, de l'olé sort. Son rôle n'est pas de permettre ou d'interdire. Et là, la shiv lève avot albanim, velève banim alvotam. Le rôle d'Eliyahu Hanavi, c'est de reconnecter le père avec ses enfants et les enfants avec leur père. Tisha B'Av, c'est le jour de la reconnexion. Tisha B'Av, c'est un moment très difficile. On se rappelle de tout ce qui a été pourri. Et l'année dernière, je vous le renverrai si vous voulez pour vous rappeler, mais l'année dernière, j'ai fait un cours sur les choses en plus qui se sont passées à Tisha B'Av depuis les cinq choses nommées dans la Mishnah. Il y en a eu d'autres. Et j'ai mis ça en relation avec les différentes interdits des Oraïda, des Rabbanan. Enfin, pas vraiment des Oraïda, mais des Rabbanan de l'époque et des Rabbanan plus récentes qu'on ne fait pas à Tisha B'Av. Les Rabotai. C'est vrai que c'est un jour où on se rappelle de tous les problèmes et tous les malheurs. Mais c'est le jour où, justement, parce qu'on passe en revue tous les malheurs, et que dans ces malheurs, on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il était là, eh bien, ça me permet de me reconnecter aussi dans les moments où Akadosh Baruch Hu, il était là dans les bonheurs. Comme disait ma grand-mère, après Auschwitz, quand je lui ai demandé « Est-ce que tu crois en Dieu, mamie ?» Elle m'a répondu « Après tout ce qu'il nous a fait, comment tu veux que je croie en lui ?» Et j'ai répondu « Mais mamie, après tout ce qu'il vous a fait, donc ça veut dire que tu crois en lui. Après, tu me dis comment tu veux que je croie en lui ?» Il m'a dit « Quand tu grandiras, tu comprendras. » Comme disait Elie Wiesel, après la Shoah, tu peux être pour Dieu, contre Dieu, mais tu ne peux pas être parfait. Tisha B'Av, tu passes en revue tous les moments où c'était dur. Et tu lis la Megillat Esther, tu vois bien qu'il y a d'autres bruits dans l'histoire. Tu peux t'arrêter à ça et être en mode Rasra. Ça, c'est le côté Ashkenaz de Tisha B'Av. Mais tu peux être aussi Sfarad de Tisha B'Av. C'est-à-dire te rappeler que si Akadosh Baruch Hu était là dans la douleur, eh bien, il est là également dans les Smachot. C'est le sod de Rabbi Akiva. C'est le sod de Rabbi Akiva qui voit le choual, le renard, sortir des ruines du Kodesh HaKodashim et qui voit tous ses copains en train de pleurer. Et lui, il se met à rigoler. Et il voit tous ses copains, il dit « Pourquoi tu rigoles ?» Et je rigole pour la raison que vous pleurez. Parce que c'est vrai qu'il y a marqué dans les prophètes qu'il y aura à un moment donné Shoalim et El Choubo. Et c'est terrible. Mais ça veut dire que si les prophéties de malheur se sont réalisées, les prophéties de bonheur vont aussi se réaliser. Tisha B'Av, c'est le jour de la reconnexion par l'intermédiaire de la difficulté. Parce que quand il s'agit de grandes fêtes, de moments de Simcha Atzuma, des fois, tu oublies de te reconnecter avec Dieu, Mirov Simcha. Aval Kshesh Koshi, quand elle a douleur, c'est humain de vouloir s'élever au-delà de la douleur. Et donc, c'est l'opportunité qu'on a de se rappeler aussi des moments extraordinaires. De se rappeler tout simplement que le lien, dans la joie comme dans la douleur, il est là. C'est comme le mec qui est marié depuis 50 ans,